Daily Science.
Daily Science Podcast.
Sophie Vanek, les éléments chimiques viennent des étoiles, mais comment le sait-on ?
En fait, on le sait essentiellement par l'observation des étoiles, l'observation spectroscopique. Et c'est finalement par la spectroscopie qu'au 19e siècle, on a réalisé que les éléments chimiques présents dans les étoiles étaient des éléments chimiques qu'on connaissait sur Terre. La spectroscopie naissante a permis d'obtenir des spectres d'éléments chimiques présents sur Terre. Et en observant les étoiles, on s'est aperçu que la lumière des étoiles portait les mêmes signatures spectrales, les mêmes raies en absorption, qui étaient caractéristiques de certains éléments chimiques. On a donc compris que les étoiles étaient faites de la même matière que les matières qu'on trouve sur Terre. Et ça, c'est Huggins, en 1864 seulement, qui l'a réalisé.
Comment naît la logique qui va permettre d'expliquer qu'au départ d'éléments très simples, l'hydrogène, puisque au départ il n'y avait que de l'hydrogène dans l'univers, on en arrive à toute une série d'éléments chimiques de plus en plus lourds?
Alors, ça a été un long cheminement, en effet, parce que il y a eu, tout au cours du XXe siècle, une bataille entre les tenants de la nucléosynthèse, c'est-à-dire la fabrication des éléments lourds, la nucléosynthèse, soit uniquement lors du Big Bang, donc au tout début de l'histoire de l'univers, et les tenants de la nucléosynthèse au cœur des étoiles. Alors, en fait, les deux grands protagonistes, c'était d'une part Gamov, un physicien d'origine russe, qui lui pensait que tous les éléments chimiques avaient été faits lors du Big Bang, et Hoyle, un astrophysicien américain, par ailleurs auteur de très bons livres de science-fiction, Fred Hoyle, qui était tenant de la nucléosynthèse stellaire, en fait. Et ça a été une longue bataille qui, finalement, a été tranchée par l'observation, seulement en 1956, d'un élément radioactif à la surface de certaines étoiles qui, par ailleurs, étaient des étoiles assez communes, assez normales. En fait, en 1956, on a observé l'élément technétium à la surface d'étoiles d'un type spectral particulier. Et cet élément, il est radioactif avec une durée de vie relativement courte à l'échelle de l'évolution stellaire, de l'ordre de 200 000 ans. Mais c'est-à-dire que si on observe du technétium à la surface de ces étoiles, eh bien, ces étoiles sont en train d'en fabriquer, au cœur de ces étoiles, en fait, il se produit du technétium, et puis par des mécanismes de mélange, cet élément est amené jusqu'à la surface de l'étoile. Et l'observation de technétium a été vraiment l'élément clé qui a permis de dire, vous voyez, les étoiles savent produire des éléments chimiques, et des éléments chimiques lourds, plus lourds que le fer.
Sophie Vanek, mais précisément, comment se produit la synthèse de ces éléments au sein des étoiles jusqu'au fer et puis au-delà du fer, puisque manifestement le fer constitue une sorte de limite?
C'est ça. Donc en fait, le Big Bang a fabriqué de l'hydrogène, de l'hélium, des traces d'éléments plus lourds comme le lithium, beryllium, bore, mais en quantité infime. Donc après le Big Bang, on s'est retrouvé avec de l'hydrogène et de l'hélium, et c'est tout. Et les conditions de température et de pression ont tellement chuté qu'il était impossible de fabriquer d'autres éléments chimiques immédiatement. Il a fallu attendre pour cela que de nouveaux sites extrêmement chauds et denses apparaissent dans l'univers, et ces sites, ce sont les étoiles, justement. Et donc, au cœur des étoiles, il règne des conditions de température et de densité suffisantes pour que puisse se produire la fusion, alors en premier lieu, la fusion d'hydrogène en hélium, et c'est de cette réaction nucléaire que le Soleil, par exemple, tire son énergie. Ensuite, lorsque les étoiles ont épuisé leur hydrogène central, eh bien, elles effectuent la fusion d'hélium en carbone. Et puis, il arrive que les phases s'emballent et que les étoiles, en fait, tombent à court, on va dire, de combustible nucléaire. Et les réactions s'emballent, finalement, jusqu'à la fusion donc d'hélium en carbone, de carbone en oxygène, etc., jusqu'au fer. Et puis, l'étoile explose en supernova. Donc ce sont des étoiles massives qui finissent leur vie lors d'explosions dramatiques en supernova. Mais finalement, comment aller au-delà du fer? Comment fabriquer des éléments chimiques plus lourds que le fer? Eh bien, en fait, pour cela, il faut capturer des particules neutres, pour qu'elles ne soient pas sensibles à la répulsion coulombienne, pour qu'elles puissent facilement être capturées par les noyaux. Il faut capturer des neutrons. Et donc, par capture successive de neutrons, on arrive à produire des éléments chimiques de plus en plus lourds, parce que finalement, au sein du noyau, les neutrons vont se transformer en protons. Et donc, ces captures de neutrons vont permettre de fabriquer des noyaux à la fois plus riches en neutrons et plus riches en protons, et ainsi jusqu'aux éléments les plus lourds, les plus stables, comme le plomb et le bismuth.
Sophie Vanek, quelles sont les grandes questions qui restent ouvertes en ce qui concerne la nucléosynthèse aujourd'hui?
Alors, les grandes questions ouvertes restent en ce qui concerne, par exemple, la nucléosynthèse des éléments plus lourds que le fer, eh bien, reste la nucléosynthèse par un processus qu'on appelle le processus R. Donc, les éléments plus lourds que le fer peuvent être fabriqués dans des étoiles géantes rouges de manière, on va dire, relativement stable. Et ce processus-là, le processus S, est assez bien compris. On manque encore certains détails, mais on affine de mieux en mieux sa compréhension. En revanche, on sait que les éléments plus lourds que le fer, l'autre moitié, on va dire 50%, sont produits dans des événements, on va dire, plus cataclysmiques, lors d'explosions de supernova ou lors de coalescence d'étoiles à neutrons. On pense que ce sont les meilleurs sites, mais aucune modélisation ne tient encore la route. Et donc, c'est quand même important de savoir comment 50% des éléments plus lourds que le fer sont fabriqués dans l'univers. Et là, on manque encore de modélisation détaillée.
L'observation ne vient pas en aide aux théoriciens dans ce cadre ?
Si, bien sûr. Donc, par l'observation spectroscopique notamment, on a de plus en plus de contraintes, notamment en ce qui concerne les différents isotopes, donc des noyaux qui contiennent différentes quantités de neutrons. Et ces noyaux nous permettent de vraiment mieux comprendre les détails de la nucléosynthèse stellaire. Et ces observations sont de plus en plus précises, d'une part. D'autre part, concerne des échantillons d'étoiles de plus en plus importants. Donc maintenant, on arrive à déterminer des abondances dans des centaines de milliers d'étoiles, ce qui était impensable il y a 20 ans. Et donc, on a une statistique bien meilleure, une précision bien meilleure, ce qui nous permet vraiment de mieux comprendre non seulement comment la nucléosynthèse se produit au cœur d'une étoile en particulier, mais également comment la nucléosynthèse procède au sein de toute la galaxie et comment toute notre galaxie, c'est-à-dire un ensemble de 200 milliards d'étoiles, comment toute notre galaxie s'enrichit progressivement en éléments lourds. Et au fur et à mesure qu'elle s'enrichit, la production d'éléments lourds au sein des étoiles elles-mêmes change, puisque les étoiles ne partent plus des mêmes conditions initiales, elles sont elles-mêmes enrichies au départ, et donc la manière dont elles vont à nouveau fabriquer des éléments lourds évolue. Et en fait, autant la nucléosynthèse, la fabrication d'éléments lourds était extrêmement efficace au tout début de la galaxie, autant à l'heure actuelle, l'efficacité de cette fabrication d'éléments lourds tend à diminuer.